pour votre méridienne sur les ondes de Méridien Zéro. Aujourd'hui, Aglaonis au micro, accompagné de François.
Bonsoir, bonjour, à François. Tous. Bonsoir à tous, bonsoir Aglaonis.
Et bonjour à François Nollet que nous recevons aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour, pour parler d'écologie intégrale, une thématique large qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Avant, une petite introduction peut-être, François ?
Eh bien oui, allons-y. Alors rapidement, pour introduire à la fois le sujet et l'invité, et comme d'habitude, expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi on est ravis de recevoir François Nollet ce soir, aujourd'hui. Bon, ça dépend de ces joies de l'Internet, on ne sait pas à quelle heure cette émission sera écoutée. Et commencer peut-être par une citation d'un auteur qu'on apprécie, puisqu'il s'agit d'Ernest Bonne-Salomon, qui disait « Nous ne luttions pas pour que le peuple devienne heureux, nous luttions pour lui imposer une destinée ». Alors cette belle phrase est devenue en fait une véritable maxime d'un certain nombre de générations de militants. Elle résonne encore en nous comme une incitation au combat, à la vie non conforme, aussi à une forme de recherche de grandeur, de beauté et, j'allais dire, le plus loin possible du confort offert par le monde moderne. Mais alors, si à l'époque de von Salomon, le chemin le plus court vers ce but était peut-être, sans doute, en tout cas celui qu'il a choisi, celui qu'il a emprunté, qu'en est-il de nos jours, finalement ? Et à ce micro, on a souvent évoqué la question de la rupture, une rupture avec un monde qui n'est plus le nôtre, rendu à la fois vital par l'hostilité d'un système et incontournable devant le constat triste certes mais bien réel de nos faibles moyens d'action. Pourtant, il est compliqué voire impossible pour nous d'accepter de s'éteindre un petit peu dans notre coin. Alors survient la question éternelle, redondante, que faire ? Et là, nouvelle citation, là encore, on sort les bonnes astuces de l'oncle Jean Mabir, hein, le maître Jean, comme certains l'appellent à ce micro, qui disait que certes, on ne changera pas le monde, mais lui non plus ne nous changera pas. Et certains ont choisi, eux, de changer leur monde, leur façon de vivre, en créant justement un éco-hameau. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Et donc, nous sommes donc ce soir dans un petit village, région de la Loire, qui s'appelle la Bénisson-Dieu. Ce petit village d'environ 400 habitants a vu débarquer, voilà, quelques années, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, une joyeuse bande d'idéalistes venus expérimenter un mode de vie individuel d'abord, collectif ensuite, en un mot donc communautaire, décliner l'écologie au quotidien. Selon eux, ce n'est pas seulement faire du tri et du vélo, c'est aussi chanter, coudre, lire, écrire, cultiver, enseigner, transmettre, bref, en un mot, rayonner et faire rayonner un héritage à la fois culturel et civilisationnel. Avec ce projet d'éco-hameau, ces participants ont choisi et donc renoncé à des vies souvent confortables pour un quotidien nécessairement différent, sans doute moins facile et assurément plus rugueux. Alors, serait-ce alors une rupture qui dit pas son nom ? L'écologie intégrale serait-elle ou pourrait-elle être la porte de sortie salvatrice un petit peu du problème que j'évoquais tout à l'heure ? La vie communautaire, si souvent fantasmée et tout autant décriée, peut-elle être réinventée ? Et alors d'abord, c'est quoi un éco-hameau au juste ? Et donc c'est pour répondre à toutes ces questions que nous sommes ravis, comme je disais, de recevoir François Nollet, surtout après deux émissions qu'on a eues faites récemment sur les thématiques écologiques, l'une avec Thibaut Kerlerzin, donc sur les lobbies écologistes, l'autre avec Paul Deray sur les luttes contre l'autoroute A69. Donc notre navire, si j'ose dire, poursuit sa route dans ses verts courants. Théorie, pardon, avec Thibaut Kerlerzin, pratique militante avec Paul Deray. Et ce soir, peut-être le plus important sans doute, la pratique politique au sens strict du terme, celui de l'organisation de la vie d'une cité à travers et par une vision.
Alors, tout ça étant dit, les questions sont posées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel moment on fait ce choix, à quel moment on se dit, voilà, on s'inscrit dans une forme de rupture, on va s'installer dans un milieu rural et on va essayer de vivre comme ça, en esprit communautaire, s'installer, faire notre petit jardin et puis développer un mode de vie autour de ça.
Mais l'introduction est tellement excellente que je n'ai plus rien à dire. Je vais juste la commenter finalement. À quel moment, justement, parce que l'on souhaite être heureux, mais pleinement heureux. Donc, je dirais pour contrebalancer un peu la première citation, que ça n'est pas une renonciation au bonheur, mais c'est la recherche d'un bonheur plus profond, plus durable, moins superficiel. plus radical, plus absolu que le mode de vie de la société occidentale contemporaine ne nous semblait pas permettre. Donc effectivement, c'est un pas de côté. C'est un pas de côté qu'il faut faire au bon moment, entre guillemets. Évidemment, il y a des situations de vie qui ne le permettent pas. Nous étions à un moment de notre vie où nous pouvions le faire. Mais comme vous l'avez bien rappelé dans votre introduction, il s'agit non pas comme le disait Voltaire à la fin de Candide, de simplement cultiver son jardin pour s'extraire du monde, mais d'un véritable projet politique au sens noble du terme politique. Voilà, de reconstruction, de retrouvailles de la communauté, des intermédiaires entre l'individu et l'État qui ont été déconstruits au fil des siècles. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger tous les plans. Effectivement, on ne va pas changer le monde. On n'est pas dans une démarche politique de parti ou de militantisme. Effectivement, on se situe à un niveau intermédiaire entre l'éthique individuelle et la politique. Et effectivement, comme vous le disiez, on commence d'abord par changer notre monde pour attirer, rayonner, donner envie à d'autres de le faire également.
Alors, ce projet, il a vu le jour en 2016, c'est bien ça. Vous êtes maintenant, si je ne me trompe pas, 9 familles confirmées.
9 foyers.
9 foyers, donc c'est des personnes... alors, il peut y avoir des couples avec des enfants, des couples sans enfants.
Ou des personnes célibataires.
D'accord. Et quand vous nous parlez de bonheur, de recherche du bonheur, quel est pour vous justement ce principe? Est-ce que... voilà, il y a une ligne de conduite, quelque chose qui vous a amené à ça dans vos réflexions. Quelle était un peu la genèse? Quel était votre parcours, vous, par rapport qui vous a amené vraiment à mettre en action ce projet et ensuite agglomérer toutes ces personnes autour de vous?
Eh bien, il y a une genèse existentielle et une genèse intellectuelle. Je dirais que, et par ailleurs, je dirais que le bonheur qu'on cherche, il peut se définir à la fois de façon négative, par contraste avec ce qu'on ne voudrait pas vivre ou ce qu'on rejetterait, et de façon positive. Alors la genèse existentielle, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une certaine insatisfaction vis-à-vis du mode de vie de la société actuelle, mais aussi des expériences assez radicales vis-à-vis de la médecine dite conventionnelle, donc la première étape de notre démarche à nous, les Blandine et François Nollet, ça a été la remise en question du paradigme médical dominant, dont nous sommes aussi issus familialement. Voilà, finalement, on rejoint une analyse menée par Ivan Illich sur le fait que la médecine produit elle-même aussi des maladies et des problèmes quand elle devient excessive, quand elle devient un système totalisant, quand elle ne cherche plus les causes, mais simplement à soigner les symptômes. Et donc, ça a été une démarche autant existentielle qu'intellectuelle de se demander quelle serait une médecine qui correspondrait davantage à notre nature, à nos besoins. Et puis, de fil en aiguille, tous les aspects de notre mode de vie y sont passés. Nous avons eu des enfants, donc nous nous sommes interrogés sur leur instruction, leur éducation. Et à chaque fois, un monde s'ouvre, il faut se former, lire, choisir quelle école on prend et pourquoi. Donc finalement, la question qui s'est posée à travers toutes ces démarches, c'était quel est l'art, quelle est la technique, quel est le savoir-faire qui correspond le mieux à la nature humaine dans les différents aspects concrets de notre existence familiale.
D'accord.
Et voilà comment nous avons eu l'idée en 2015 de rendre cohérents tous ces aspects du changement de mode de vie. Et c'est le concept d'écologie intégrale qui nous a semblé faire l'unité.
Très bien. Et est-ce que du coup, par rapport à ce que vous nous expliquez là, d'un constat que finalement... on produit aussi nous-mêmes quelque part les maux qu'on souhaite soigner par une médecine qui n'est pas forcément toujours juste et qui peut être excessive et qui correspond aussi à cet environnement de consommation et de surconsommation dans lequel on est habitué à vivre et qui, où on crée nos propres symptômes finalement. On est dans cette logique de décroissance. Pour vous, est-ce que l'écologie intégrale, c'est un principe de décroissance, un principe de sobriété? Comment vous l'entendez, vous, à l'EcoHamo?
Mais je dirais que dans notre démarche, il y a une démarche de sobriété, de simplification volontaire. Mais pour moi, il s'agit simplement d'une mise en pratique de ce que les anciens appelaient la vertu de tempérance, qui s'opposait à l'hubris tant redouté, à l'excès en toute chose. Et voilà, il ne me semble pas qu'il faille définir cela négativement par la décroissance, mais simplement positivement par la tempérance, la modération, qui, sous la plume d'Aristote, est une excellence, une vertu, quelque chose de positif à trouver et à chercher qui nous rend pleinement heureux. Et par bien des aspects, notre société est excessive et dans une forme d'hubris. Et donc, il s'agit, pour ce qui est de la question de la nourriture, mais aussi de la question de l'agriculture plus généralement, de la question de notre rapport aux biens matériels, de notre rapport aux autres aussi, de revenir à une forme de tempérance, de modération, d'équilibre, de juste mesure. Tout ce qui faisait la définition d'une vertu chez les anciens.
Donc là, vous faites référence aussi à Aristote et au bien commun, quelque part, c'est protéger ce bien commun et puis voilà, se réapproprier aussi les choses de façon plus simple, concrètement, dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça, justement? Vous êtes, vous allez peut-être nous expliquer un peu comment vous partagez votre temps entre le travail, parce que se détacher de cette vie-là du jour au lendemain, c'est pas forcément évident. Quel choix vous avez fait par rapport à ça? Comment vous vous inscrivez par rapport à ça entre être vraiment dans une logique d'autosuffisance, hein, quelque part, parce que c'est quand même un peu l'idée. De garder quand même un pied dans ce système capitaliste où on doit aussi travailler et puis pouvoir tout simplement nourrir notre famille, se vêtir, se loger, etc. etc.
Oui, alors il y a d'abord une démarche individuelle. Donc, pour prendre des exemples très concrets, avec mon épouse, comme ces problèmes de santé étaient liés à des intolérances alimentaires, nous avons commencé par changer d'alimentation. Donc c'est une démarche très concrète. Mais ensuite, nous nous sommes rendus compte que pour le bien de nos enfants et pour notre bien à nous, il était nécessaire de ne pas rester simplement entre nous, dans la famille nucléaire, si j'ose dire, et qu'il fallait au contraire élargir. Et entrer dans une démarche véritablement collective, communautaire au sens ancien, antique du terme, lancer ce projet, cette œuvre collective, qui permet à la fois des choses qu'on ne peut pas faire individuellement, par la mise en commun de certains biens, de certaines compétences, et qui permet aussi, par le fait de s'ancrer sur le long terme, de donner naissance à des œuvres qu'on ne peut pas faire chacun dans son coin. Par exemple, la création d'une école, d'une épicerie, d'une maison d'accueil, ce genre de projet que nous avons à l'EcoHamo. Voilà, mais notre objectif n'est pas d'abord l'autosuffisance ou l'autarcie, qui nous semble un idéal assez inaccessible. Au contraire, nous pensons que il faut que chacun puisse apporter ses compétences complémentaires et qu'on a besoin aussi des autres qui sont présents sur place et qui ne font pas forcément partie de l'EcoHamo. Quoi qu'il en soit, vous parliez du fait de... ça y est, j'ai oublié mon point, mon idée.
De recréer en fait en base de la se réapproprier quelque part en fait la notion de cité, remettre la cellule familiale à la base, de la conception d'une société qui fonctionne en cohérence et puis se réapproprier quelque part ces choses-là et c'est faire un pas de côté justement par rapport à ce que nous proposent les politiques aujourd'hui, l'État qui s'est réapproprié quand même beaucoup de choses, notamment les questions, ça peut être questions d'éducation ou autre. Est-ce que vous vous inscrivez vraiment en marche par rapport à ça ?
Ben, y a une logique de subsidiarité effectivement que l'État n'a plus, c'est-à-dire que chaque problème doit se régler au niveau le plus adéquat, et il y a beaucoup de problématiques qui doivent être réglées au niveau de la famille ou du village, de la communauté de famille ou de la région. Et voilà, et il s'agit de retrouver cette bonne taille, ce bon niveau pour régler certaines questions qui ne sont pas du ressort de la politique au sens du gouvernement de la cité ou de l'État. Et vous abordiez tout à l'heure la question de l'équilibre entre vie personnelle, vie familiale, vie collective. C'est vrai que c'est un équilibre qui est toujours réinterrogé. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne nous sentions pas équilibrés quand nous étions qu'entre nous, famille Nollet. Donc justement, l'équilibre de notre famille nucléaire nécessite la vie commune avec d'autres familles. L'éducation de mes enfants nécessite qu'ils aient aussi d'autres référents et des camarades avec lesquels ils puissent grandir et être élevés. Et donc voilà, notre vie quotidienne se partage entre le travail des uns et des autres, qui peut être dans le village ou à l'extérieur du village, dans une ville moyenne voisine, l'éducation de nos enfants, notre vie familiale et la vie collective, où nous mettons du temps, des compétences et certains biens en commun, donc avec beaucoup d'activités quotidiennes et certains projets que nous menons de front les uns avec les autres en fonction de nos affinités.
Une question peut-être plus concrète, vous parlez d'élargissement, donc on a bien compris les raisons qui vous ont poussé à cet élargissement, mais alors comment on y procède ? Quels sont les critères de sélection ? Est-ce qu'on a besoin d'abord de compétences autour de soi ? Est-ce qu'on a besoin au contraire d'affinités ? Si c'est le cas, lesquelles ? Politiques, spirituelles, esthétiques peut-être, artistiques, je ne sais pas. Comment avez-vous procédé à cet élargissement ? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression, quand on regarde un petit peu, quand on cherche à s'enseigner sur votre aventure collective, que les profils sont relativement disparates. Puisque c'est vrai que quand on annonce sur le papier une communauté d'une petite dizaine de foyers qui vivent ensemble, on a vite tendance à imaginer Fort Lamo avec effectivement les tuniques bleues, tout le monde se ressemble. Et quand on découvre le Eco-Hamo de la bénédiction Dieu, c'est absolument pas le cas. On a plutôt l'impression d'avoir des gens qui ont des aspirations, qui sont déjà à des moments de vie en termes d'âge qui ne sont pas exactement les mêmes. Vous l'avez dit, en termes de situation familiale aussi, un célibataire n'aura nécessairement pas les mêmes problématiques qu'une famille avec 5 ou 6 enfants. Alors voilà, comment on fait pour composer ça ? Quels sont les critères quelle est la réflexion initiale ?
Eh bien, nous étions 3 familles initialement à lancer l'Eco-Hamo. Nous avons simplement écrit une charte qui déclinait les 10 aspects de l'écologie intégrale, la manière dont nous pensions qu'il fallait définir l'écologie intégrale. Donc finalement, on pourrait dire que c'est cette charte-là qui fait l'unité. Mais nous ne sommes pas une communauté religieuse, donc il n'y a pas d'obligation entre nous, il n'y a pas de logique d'obéissance, il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de règle, il n'y a pas la règle Nollet.
La question de l'unité, elle est effectivement assez sensible, d'autant que, comme vous le disiez, on a des profils assez variés. Donc qu'est-ce qui fait l'unité entre nous tous ? Premièrement, la volonté de faire un pas de côté par rapport à la société actuelle. Mais ça, c'est purement négatif, ça ne donne pas un projet positif commun. Malgré tout, le fait que nous soyons catholiques. Mais bon, parmi nous, les définitions du catholicisme seront assez différentes. Donc je dirais que ce qui fait l'unité, c'est la volonté de vivre en commun et de vivre certains aspects de l'écologie intégrale, qui consiste à faire un pas de côté vis-à-vis de la société actuelle. Mais c'est la même unité, si vous voulez, que l'unité d'un village, en fait. Dans un village, vous ne choisissez pas vos voisins, il y a parfois des différences très fortes, Mais un village qui est en bonne santé est un village où l'unité est supérieure à la diversité, où on arrive à dépasser ces différences pour vivre ensemble et faire des projets concrets au service du bien commun ensemble. C'est ça qu'on essaye de vivre. Et je pense que justement, c'est un peu ce qui nous sauve, cette possibilité, enfin le fait qu'il n'y ait pas d'uniformité entre nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en réalité, c'est la vie concrète qui éprouve les idées. Et la plupart du temps, on pense a priori être d'accord, être du même bord, avoir les mêmes visions des choses. Et en fait, c'est en vivant au quotidien qu'on se rend compte que c'est pas du tout le cas, qu'il y a des divergences beaucoup plus fortes qu'on ne le pensait, mais aussi des unités beaucoup plus fortes. On découvre des défauts qu'on n'avait pas vus auparavant, mais on découvre aussi des qualités qu'on ne connaissait pas chez son ami. Donc voilà, c'est... ça s'éprouve au quotidien. Et je dirais que choisir de vivre ensemble, c'est pas d'abord choisir d'être d'accord sur tout. C'est accepter un accord minimal et une volonté d'agir ensemble en vue du bien commun, malgré des divergences parfois assez profondes.
Donc si on comprend bien, la notion reine, ce qui a été placé un petit peu au-dessus de la mêlée, au-dessus peut-être des dysfonctionnements, c'est quand même malgré tout cette notion d'écologie intégrale, définie, vous le disiez, par cette charte. Et c'est pas quelque chose de... en tout cas peut-être de surprenant, je me mets à la place de l'auditeur qui connaît ces questions un petit peu de loin, pour des catholiques justement, à placer quelque chose au-dessus peut-être de la foi et de sa pratique.
Oui, c'est une bonne question. Alors je ne dirais pas qu'on place l'écologie intégrale au-dessus de la foi, je dirais que l'écologie intégrale c'est simplement une manière de reformuler la doctrine sociale de l'Église, qui est une expression pratique de la foi, de l'Évangile. Donc comment vivre l'évangile au quotidien? Eh bien, vous avez la doctrine sociale de l'Église, et l'écologie intégrale est une manière de la reformuler, parce que l'écologie intégrale, à mon sens, est beaucoup plus large que la simple écologie environnementale, et par conséquent, elle inclut des aspects extrêmement variés, comme la question de l'éducation, la question de l'économie, la question de la liturgie aussi, la question du chant, la question de la transmission, voilà, donc toutes ces questions-là sont des questions d'écologie au sens large et étymologique du terme. Donc ça n'est pas quelque chose qui est placé au-dessus de notre foi. Et je dirais que, ça va peut-être vous paraître un peu étonnant, mais il y a autant de différences de définition de l'écologie intégrale parmi nous que de différences de définition de la foi catholique parmi nous.
C'est là que c'est intéressant. Est-ce qu'on parle de définition ou de pratique ?
Eh bien les deux, parce que il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à certains points que d'autres. Donc certaines personnes vont davantage privilégier, par exemple, la question liturgique, d'autres questions. Moi, je vois plutôt ça comme un enrichissement mutuel. Mais c'est à la fois théorique et pratique, donc il y a des modes de vie assez divers. Encore une fois, on n'est pas une communauté religieuse. On n'est pas censé avoir un mode de vie complètement uniforme et on tente tant bien que mal de ne pas se juger les uns les autres, mais plutôt de s'enrichir de ce que l'autre propose de positif et d'intéressant.
Et du coup, moi je me suis posé la question évidemment, mais vous allez répondre à cette question. Le projet a pris naissance en 2016 à peu près, et donc est-ce que c'est aussi une réponse à l'appel du pape François par rapport à l'encyclique de 2015, est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous adhérez à ça? De quelle manière vous ancrez aussi ce projet, cette démarche d'éco-hamo par rapport à ça?
Oui, l'encyclique du pape François a joué un rôle prépondérant. Comme je vous le disais, nous étions dans une interrogation générale sur la cohérence de notre mode de vie avec mon épouse. Et en 2015, on a à la fois découvert l'existence des Colibris de Pierre Rabhi, qui est un mouvement apolitique, aconfessionnel, qui a développé justement ce qu'ils appellent des oasis en tout lieu depuis 40 ans, donc des écolieux un peu partout en France, où l'idée est de défendre une écologie par le bas, et avec des petites communautés, des petits collectifs vivants, conviviaux. Et d'un autre côté, il y a eu la publication de l'encyclique Laudato Si, et le concept d'écologie intégrale proposé par le pape François nous a semblé faire l'unité de tout ce que nous changions dans nos habitudes, de ce que nous cherchions, notre idéal. Simplement, le pape François a un style assez particulier. Il ne définit pas et n'argumente pas de façon aussi détaillée que son prédécesseur. Et d'une certaine façon, c'est à nous de faire le travail. Et par conséquent, la définition de l'écologie intégrale est en débat chez les catholiques eux-mêmes. Donc la manière dont nous la définition ne va pas être la même que certains autres catholiques. Et même parmi nous, il y a des différences de définition. Mais il est clair que ça nous a donné l'élan pour lancer ce projet, parce qu'on s'est dit que ça répondait à un besoin à la fois de l'époque et aussi de l'Église.
Oui, face à ce constat justement d'une société qui s'inscrit dans une surconsommation, et ça, on l'a dit tout à l'heure. On a vu aussi à la suite de ça plusieurs phénomènes émerger, notamment, on peut citer la revue Limite, la marche pour la vie, le mouvement des veilleurs aussi, qui était une certaine réponse à cet appel-là. L'idée, c'était quand même de... aussi avec les co-hameau, de pouvoir mettre en pratique ce genre de choses, d'y mettre une dimension à la fois écologique, mais est-ce qu'on peut penser l'écologie, le mode de vie, le social, sans y mettre une dimension spirituelle?
Oui, alors les veilleurs et la marche pour la vie, c'était antérieur à l'encyclique. Néanmoins, le moment politique du mariage pour tous a aussi été une étape intellectuelle importante pour nous, parce que les revendications pour le mariage pour tous nous semblaient être une revendication qui découlait d'un mode de vie extrêmement artificiel et très citadin, que les opposants au mariage pour tous partageaient par ailleurs, ce qui nous semblait une certaine forme d'incohérence. Et donc, oui, il y a eu cette démarche d'un pas de côté. La revue Limite a été aussi fondée à partir de l'encyclique Laudato Si. Mmh. Et votre question
C'était vous. Est-ce que, de toute façon, la question, c'était justement, est-ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche dite d'écologie intégrale sans dimension spirituelle? Il y a forcément derrière une dimension spirituelle. Et comment elle est vécue au sein de l'éco-hameau? Vous parliez de diversité, de pratiques. Comment c'est vécu, ça? Est-ce que, justement, cette dimension spirituelle, elle permet de vous réunir autour d'un projet commun et de remettre un peu du sens dans ce que vous faites au quotidien?
Oui, alors, il est évident que la spiritualité fait partie de l'écologie intégrale à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que, précisément, nous avons l'impression que la spiritualité ou la religion telle qu'elle est vécue est fortement désincarnée. Et justement, la religion est plutôt... les catholiques souffrent plutôt de ce qu'on pourrait appeler une forme de spiritualisme, de désincarnation, où il y a d'un côté la prière... et de l'autre côté, le reste de la vie qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe à la messe du dimanche. À la rigueur, on va parfois manifester pour la vie, mais c'est tout. Il n'y a pas d'infusion de l'évangile dans la totalité du quotidien. Et pour nous, c'est ça l'écologie intégrale, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'infusion de l'évangile, de la foi, dans les actes et les activités et les choix quotidiens. Ça, c'est une première chose. Et... la deuxième chose, c'est que la question liturgique, elle est aussi touchée par une forme d'hyper-artificialisation, de consumérisme, d'individualisme. Et donc, il faut aussi réfléchir à la manière dont on pourrait retrouver une liturgie qui soit moins artificielle, moins individualiste, moins consumériste. Et donc, ça fait partie de nos réflexions et de nos pratiques, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sensibilités très variées, donc des pratiques très variées au sein de l'éco-hameau à ce sujet.
Mais alors, sur cette question de la désincarnation de la foi, pour essayer de schématiser et de grossir un petit peu le trait de ce que vous venez de dire, il y a peut-être un petit paradoxe avec le pape François, c'est que si d'un côté, effectivement, la publication de Laudato Si a influencé toute une génération de jeunes catholiques. C'est un fait, certes, mais d'un autre côté, on a aussi l'impression que c'est son pontificat qui a accéléré davantage encore une forme de temporalisation, j'allais dire, de l'Église, une forme d'inscription de cette parole papale un petit peu dans un agenda mondial qui est quasiment celui du showbiz. Hein. Donc on a l'impression que cette case de l'écologie, en ce qui concerne en tout cas le pape François, elle a été cochée comme elle est cochée par un candidat présidentiable, si vous voulez, pour 2027. C'est peut-être un petit peu l'impression que ça dégage. Et ça vient quelque part en paradoxe avec ce que vous nous décrivez à propos de la bénédiction de Dieu, où, alors je ne vais pas m'aventurer sur de la philosophie avec le prof de philosophie que vous êtes, parce que pas une grande chance de réussite, mais essayons quand même. On a l'impression de trouver des petites notes de thomisme à droite à gauche quand même dans ce que vous dites, avec cette idée que l'ordre de la cité, le bon ordre, c'est forcément Dieu, et que le bon ordre vient nécessairement, toute bonne chose venant de Dieu selon saint Thomas d'Aquin, il faut une cité un petit peu ordonnée, et que l'écologie finalement vient s'inscrire tout simplement dans cet ordre et s'inscrit à ce titre-là effectivement dans la foi. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure.
Oui, oui. Alors, vous avez raison, pour ce qui concerne le pape François, de l'extérieur, on peut avoir cette impression qu'il a une forme d'agenda mondialiste, etc. Mais je pense que c'est plus nuancé que ça. Pourquoi ? Parce que il maintient les thèses traditionnelles qui ne sont pas du tout médias compatibles, comme le fait que l'avortement est un meurtre et que l'euthanasie... ne doit pas être défendu. Donc si son agenda était purement mondialiste, il finirait par accepter l'euthanasie et l'avortement. Et je dirais plutôt que justement il essaye d'élargir le champ d'action des catholiques. Bien sûr que sur les questions de bioéthique, la position catholique n'est pas du tout compatible avec les médias et un certain agenda mondialiste. Ça n'est pas parce que l'écologie, elle, est compatible avec cet agenda
ou qu'il faut pas en parler,
récupéré par cet agenda, ouais, qu'il faut se laisser confisquer, ouais, l'écologie. Et donc, je pense que les catholiques, au contraire, doivent investir aussi ce champ-là pour dire justement quelle doit être la véritable écologie, parce qu'il y a des écueils dont parle le pape François dans son encyclique, comme l'antispécisme, par exemple, radical. Comme justement l'idée que l'homme serait en trop sur la planète. Donc tout ce type d'écologie doit être combattu. Et il faut manifester au contraire qu'une véritable écologie ne peut se penser que si nous sommes tous frères d'un même père. Et si la création est un cadeau qui a été donné par Dieu pour être préservé, pour être cultivé. Et ça, c'est précisément ce qu'enseigne... la foi catholique. Donc je pense que le pape François a raison de montrer que finalement une écologie véritablement cohérente ne trouve son achèvement que dans la vision du monde finalement catholique. Alors après, j'ai pas bien compris le sens de votre question sur Thomas d'Aquin et sur la place de Dieu dans la...
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé de mettre, si vous voulez, en balance le fait que d'un côté, on a une voix papale qui porte quand même, effectivement, qui donne des grandes orientations sans aller vraiment dans le détail et qui, eu égard aux autres peut-être positions du pape François, alors certes, effectivement, sur les questions bioéthiques, vous l'avez dit, il est resté fidèle, j'allais dire, au dogme. On voit bien que l'Église est en mouvement. Les plaques, malheureusement, certaines plaques tectoniques bougent. On peut parler de l'Église allemande. Enfin bon, voilà, c'est pas tellement le sujet de l'émission, mais malgré tout, l'Église traverse une forme de crise. Alors, c'est pas la première, c'est pas la dernière, et oui, son principe même, c'est d'y survivre, mais... l'impression qu'on a en regardant la bénédiction de Dieu, c'est qu'il y a aussi peut-être une espèce de volonté comme ça de réponse peut-être par l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes une communauté qui, sur le papier, peut paraître disparate, mais qui arrive malgré tout à cohabiter autour de règles peut-être simples et avec une vision commune. Et cette vision que vous décriviez tout à l'heure, donc de l'écologie intégrale qui vient finalement s'inscrire dans la foi, moi, m'a fait penser effectivement à une certaine partie de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, qui lui expliquait que nécessairement l'ordre devait faire partie, tout devait être ordonné dans un tout qui est forcément issu de Dieu.
Oui, tout à fait. Il y a cette recherche de cohérence qui est très présente, et l'idée que la foi n'est pas réservée, si vous voulez, au temps liturgique de la messe, par exemple, ou à l'oraison, que, comme le dit saint Paul, il faut prier en tout temps. Donc chaque acte doit être infusé de la foi, de la charité, de l'espérance et de l'évangile. Donc, mais je pense que c'est cet appel à la cohérence qui se trouve dans l'encyclique du pape François. Après, voilà, le pape François développe aussi beaucoup un discours politique, alors que nous ne nous situons pas à ce niveau-là. Donc, comme vous le disiez, on essaye d'incarner ces principes au niveau domestique, en fait, au niveau villageois, pour montrer que, eh bien, il n'y a pas que la politique politicienne, la politique de parti, la politique militante, mais il y a aussi une politique à un autre niveau qui est tout aussi nécessaire.
Et justement, dans ce concept d'écologie intégrale, vous avez mis des choses en place, notamment une école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce qui est enseigné ? Comment c'est organisé ? Oui. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants ?
Alors nous avons différents...
Aux enfants de l'éco-hameau en général ?
Effectivement, nous avons différents projets en cours ou œuvres déjà réalisées. Le premier projet à s'être réalisé, c'est la création d'une école hors contrat. Donc nous avons récupéré les locaux d'une ancienne école privée qui avait fermé faute d'effectifs. Et certains parents de l'éco-hameau ont rouvert cette école en s'appuyant essentiellement sur la pédagogie Montessori. Donc, notre idée est de respecter le plus possible le développement psychomoteur de l'enfant. Donc encore une fois, la question, c'est quelle pédagogie correspond le mieux à la nature de l'enfant. Voilà une question écologique. Et puis évidemment la question des effectifs joue, la question de la taille est toujours une question écologique. Lire à ce sujet le livre d'Olivier Rey, une question de taille. Donc la question des effectifs est fondamentale. Donc nous nous sommes fixés pas plus de 12 à 15 élèves par enseignant, par exemple. Voilà, et puis l'idée, c'est qu'aussi l'école n'est pas là seulement pour enseigner des apprentissages académiques, mais aussi d'autres types d'apprentissage. Et c'est pourquoi les élèves ont aussi des cours d'artisanat, d'agriculture, etc. Donc ça, c'est pour le volet école, mais c'est finalement un projet qui s'est petit à petit émancipé de l'éco-hameau, puisque maintenant, il y a beaucoup d'autres familles qui ne font pas partie de l'éco-hameau qui sont dans cette école et qui l'organisent. Et puis, tous les membres de l'éco-hameau ne mettent pas leurs enfants dans cette école. Donc il y a une grande liberté à ce niveau. Et puis ensuite, il y a d'autres projets dont je peux parler si vous voulez.
Avec plaisir.
Voilà. Nous avons donc lancé un groupement d'achat pour essayer de nous passer le plus possible de supermarchés. Groupement d'achat de produits frais et de produits d'épicerie sèche qui va se transformer en épicerie participative pour le village, puisqu'il n'y a plus de commerce actuellement dans le village, à part un restaurant. Dans une maison que nous restaurons, donc, qui appartient à une fondation qui met cette maison à disposition de notre association, puisque c'est la forme juridique que nous avons. Et nous restaurons cette maison pour en faire plus tard une maison d'accueil pour des personnes en situation de précarité. Et au rez-de-chaussée de cette maison, il y aurait donc cette épicerie participative, une cuisine partagée et un atelier partagé. Donc ça, c'est la mission sociale de l'éco-hameau. Et puis nous avons aussi des projets agricoles en cours et artisanaux. Chaque membre de l'éco-hameau s'est quand même installé là pour retrouver un lien plus direct avec la terre, avec la matière, avec la nature. Donc certains développent des compétences agricoles, d'autres des compétences artisanales qui serviront aussi pour les personnes accueillies dans cette maison d'accueil.
Je crois qu'on peut acheter du vin, c'est ça?
Nous avons des vignerons, effectivement, le domaine de la Bénisson Dieu, qui fait du vin nature excellent. Nous venons de planter 1 hectare à la Bénisson Dieu. Alors certains, comme les Hanouilles, qui sont des fous de Dieu, ont tout quitté pour devenir agriculteurs, mais c'est les seuls. Les autres, plus prudents, développent une activité à côté de leur métier principal. Voilà, et puis... il y a aussi, après chacun développe selon ses affinités, hein. Moi c'est plutôt l'apiculture que je développe depuis 3 ans, et à chaque fois la question est de savoir, ben, quelle apiculture je vais choisir, quelle est l'apiculture qui respecte le mieux la nature de l'abeille, par exemple. Et il se trouve qu'en apiculture aussi, on a des problèmes de métissage, d'importation de races d'abeilles allochtones qui font que l'abeille noire, la race d'abeille locale, est en voie de disparition, d'extinction, alors que son patrimoine génétique est extrêmement précieux, adapté à son terroir. Et donc, voilà, moi, ma démarche est plutôt d'essayer de promouvoir l'abeille noire, qui, elle, est en voie d'extinction, contrairement à l'abeille en général, et à ce qu'on dit, et d'élever cette abeille, de la diffuser, voilà. Et puis, je fais aussi je me suis formé également à l'attelage pour faire du cheval de trait agricole, pour transporter la famille, pour partir en vacances dans son pays, en fait, puisque le pays qui nous entoure est extrêmement riche. Il faut qu'on le redécouvre avec des moyens de transport, justement, plus lents, plus doux. Voilà, donc chacun développe ses projets en fonction de ses affinités. Et puis, nous avons aussi un projet en lien avec la liturgie, puisque il y a parmi nous un membre de l'Equamo, Damien Poibleau, qui par ailleurs fabrique des enceintes acoustiques artisanales, qui a redécouvert une manière de chanter le grégorien tel que les premiers manuscrits du Xe siècle semblent le faire découvrir. Et donc c'est une manière très, très étrange à nos oreilles, mais qui me semble être une façon plus écologique de chanter, même si ça paraît bizarre de dire cela. Mais j'ai développé tout un cours de philosophie de la musique, justement, pour montrer qu'il y a une manière plus naturelle de chanter, une manière plus artificielle, une manière d'être plus proche de la nature du son, ou plus éloignée. Et il se trouve qu'en Occident, on s'est plutôt éloigné de la nature du son. Voilà, donc il y a ce projet-là qu'on essaye de développer, promouvoir ce chant grégorien. Certains d'entre nous aussi, nous avons investi l'association des Amis de l'Abbaye, qui depuis 40 ans préserve le patrimoine local, puisque nous avons une abbatiale du XIIe siècle sur place. Nous avons été à l'initiative de Médiéval, maintenant qui se développent chaque année pendant l'été, et qui sont pris en charge désormais par les Amis de l'Abbaye, largement de façon indépendante de l'Equamo. Voilà, il y a plein de projets comme ça qui naissent et qui permettent à la fois au village de bénéficier de nos compétences et à chacun de développer ses qualités et ses talents propres.
Très bien. Et du coup, dans ce que vous nous dites, on comprend bien qu'en fait, la notion d'écologie intégrale, c'est vraiment se poser la question au quotidien, dans chaque acte quotidien, dans chaque démarche, quelle est la vraie nature des choses, la nature première, la plus simple finalement et la plus sobre. Et donc, il faut justement se poser cette question à chaque fois, se faire ce travail de se poser cette question pour être au plus juste finalement par rapport à votre démarche d'écologie intégrale. Tout ça s'inscrit dans un temps long, puisqu'il y a forcément, ça nécessite de mettre des choses en place qui ne donnent pas les fruits forcément tout de suite. Est-ce que vous avez comme projection de devenir justement complètement autonome et de vous détacher des contraintes économiques qui vous lient encore, notamment avec les métiers que vous faites encore aujourd'hui?
Eh bien, l'autarcie n'est pas notre objectif, parce que c'est inaccessible. La petite maison dans la prairie, ça n'est pas possible, concrètement. Nous avons besoin des autres, et il est bon d'avoir besoin des autres. Néanmoins, nous souhaitons relocaliser fortement l'économie, ça c'est certain, et être moins dépendant, si vous voulez, de certaines infrastructures qui peuvent être très fragiles, donc notamment au niveau de la nourriture, ça c'est certain. Mais nous ne serons jamais un village totalement autarcique ou un hameau totalement autarcique. Effectivement, comme vous le disiez, ce qui caractérise notre projet, c'est de s'inscrire sur le temps long, et ça permet des choses que ne permettent pas les projets qui sont sur le temps court ou moyen. Et la première chose qu'on constate, c'est justement la profondeur des relations amicales qu'on peut développer avec nos camarades, que nous n'avions pas du tout quand nous étions, par exemple, citadins. Voilà, et pour reprendre ce que vous disiez au départ, la question de l'écologie intégrale, c'est une question qu'on trouve dès l'Antiquité, et vous connaissez sans doute cette phrase fameuse d'Aristote, « L'art imite la nature, l'art au sens de technique, ou la parachève ». Et c'était à la fois un constat de la part d'Aristote, mais c'était aussi un devoir, c'est-à-dire que l'art, s'il veut véritablement être un art, une technique qui fonctionne, doit imiter la nature, les processus naturels, les finalités de la nature, autrement il finit par s'autodétruire, et il semble que c'est ce que l'on constate à propos de certains objets techniques qui semblent, par leur excès, ne plus imiter les processus naturels ou les finalités naturelles. Et c'est ce qu'on essaye d'interroger au quotidien. Donc c'est pour ça que je trouve que il était un peu présomptueux de la part de notre président de se moquer des Amish, parce que les Amish ont cette démarche de s'interroger sur la cohérence, la conformité de la technique avec la nature, et ils ont décidé de faire un choix en refusant certaines techniques. Alors on va pas forcément mettre le curseur au même niveau, mais je pense que la démarche elle-même qu'ont les Amish est nécessaire, et il faut que nous l'ayons, parce que toute innovation technologique ne peut pas être considérée mécaniquement comme un progrès.
Oui, absolument, et puis on est aussi dans une démarche qui relève d'un certain esthétisme aussi, d'être en conformité avec ça, et que tout progrès est finalement pas bon à prendre, n'est pas souhaitable. Et que vivre dans une certaine forme de sobriété apporte aussi beaucoup de bienfaits et peut être une forme de croissance, dans le sens de croissance de la nature de l'homme, et de mener une vie heureuse ensemble. C'est un peu ça, je pense, qu'on peut dire pour la finalité du sujet. Et puis, voilà.
Je dirais que c'est pas uniquement de la croissance. Puisque quand un arbre a atteint sa taille, il fructifie, en fait. Donc c'est d'abord de la fructification. Et on ne renonce à rien. On ne renonce qu'à quelque chose de mauvais pour trouver quelque chose de véritablement bon. Donc renoncer effectivement à un confort, au confort que la société occidentale peut nous apporter, semble difficile, mais en réalité, on se rend compte que on ne renonce à rien de bon, et qu'on ne trouve que des choses bonnes, profondes, véritablement épanouissantes, auxquelles la société contemporaine ne nous donne pas accès, justement, ne nous donne plus accès.
Et vous voyez ça au quotidien, justement, parmi les personnes qui vous ont rejoint, dans le village aussi où vous êtes, parce qu'il n'y a pas que les Coamo, hein, là où vous êtes, il y a aussi des habitants lambda qui font partie de la vie du village. Est-ce qu'en vous regardant, ils ont envie de vous imiter, ils ont envie de venir s'agglomérer et prendre part aussi à cette aventure-là avec vous ?
Ben, il y a plusieurs cercles, en fait. Il y a les familles qui font partie du cercle restreint de l'éco-hameau, et puis il y a les cercles concentriques avec des voisins, des connaissances, des amis du territoire qui participent à nos projets et aussi qui nous aident énormément. Donc il y a eu des personnes qui nous ont accueillis de façon incroyable et qui nous ont énormément aidés, auxquelles nous sommes parfaitement redevables. Voilà, donc après, nous travaillons avec ceux qui acceptent de travailler avec nous. Pour une large part, les gens, les habitants sont indifférents parce qu'ils sont satisfaits de leur mode de vie actuel, donc il n'y a pas de raison de changer, si vous voulez. Mais effectivement, il y a des personnes qui se sont réjouies parce qu'ils étaient aussi en attente de ce que l'on propose, sans être dans la capacité de réaliser tout seul.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que est-ce que à votre avis, vous allez nous dire ce que vous en pensez, là ça fonctionne parce que aussi c'est à échelle humaine, entre guillemets, c'est une petite communauté. Est-ce que vous pensez que il faut développer ce genre d'initiative en petite communauté, Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose d'un point de vue de l'écologie de nos politiques? Vous pensez que l'alternative, c'est justement faire un pas de côté, se mettre en rupture par rapport à ça et créer des espaces de vie communautaires comme celui de l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu? Comment on peut faire conjuguer les deux? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'un et de l'autre pour aller dans le bon sens par rapport à ça?
La politique est nécessaire, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Simplement, c'est pas mon domaine, je ne suis pas un politicien. Donc la politique est nécessaire et ce que nous faisons est aussi nécessaire, la taille intermédiaire est aussi nécessaire. La question de la taille est fondamentale. Donc nous savons que nous n'allons pas croître au-delà d'un certain nombre de foyers. On ne sait pas a priori quel sera le bon nombre. Mais au-delà de ce nombre, nous savons que nous perdrons en qualité ce que nous gagnerons en quantité. Donc il faudra cesser de croître et simplement fructifier, comme le fait un arbre, par exemple. Mmh. Mais effectivement, nous appelons de nos voeux le développement de petites communautés de taille restreinte un peu partout dans le pays, qui peuvent prendre diverses formes, en fait. Nous, c'est un habitat participatif, mais ça peut être un habitat partagé, ça peut être quelque chose de beaucoup plus lâche, avec des gens qui habitent dans des villages et qui se retrouvent à un endroit, ça peut être un atelier partagé, ça peut être une radio associative. Il y a plein de formes différentes que cela peut prendre, en fait.
Mais alors, justement, à ce jeu-là, comment vous voyez les choses d'un point de vue plus large? Vous dites qu'effectivement, il y a une question de taille, tout simplement. Vous citiez aussi tout à l'heure le livre d'Olivier Rey. Bon, la métaphore de l'arbre est très parlante, mais au-delà de ça, on comprend bien de toute manière que, de par les modes de vie que vous décrivez, effectivement, au-delà d'un certain nombre de familles, alors qu'on peut peut-être imaginer autour de la quinzaine, j'imagine, je crois que vous avez évoqué ce chiffre lors d'une conférence. Alors, oui. Je ne sais plus si c'était sans doute lors du colloque des Climat Christiana, mais bon, passons. Qu'est-ce qui se passe ensuite d'un point de vue plus global? Est-ce qu'il est souhaitable et est-ce qu'il est possible finalement d'avoir une constellation d'éco-hameaux, ou est-ce que là encore on touche pas, parce que souvent dans la question écologique, alors d'un point de vue peut-être plus médiatique, on est rapidement confronté à la question démographique. Et donc là, on est en plein dedans. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable d'avoir comme ça un pays composé d'éco-hameaux? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi démographique? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, est-ce que ça ne vient pas donner une dimension sans doute un peu élitiste, même si c'est sans doute pas le bon terme, en tout cas à ce genre de projet, on a quand même l'impression que c'est pas forcément accessible à tout le monde.
Ah mais je ne pense pas qu'il faille que tout le monde fasse des éco-hameaux. Justement, je dis qu'il y a plein de façons différentes d'incarner l'écologie intégrale. Et puis, ça n'est qu'un niveau parmi d'autres. C'est-à-dire que les corporations, les cités, les villes sont nécessaires au niveau au-dessus, en réalité. Et donc, je pense que, voilà, dans une sorte de fédéralisme, on pourrait imaginer un gouvernement au niveau du canton ou de la région. Évidemment, il y a des cercles plus larges. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut malgré tout initier un exode urbain massif. Quelle que soit la question démographique, nos campagnes se sont vidées et il faut que beaucoup de citadins acceptent de revenir en ruralité et d'y développer des activités économiques. Donc ça, c'est clair. Maintenant, je ne nie pas la nécessité des autres échelles, de l'échelle politique à proprement parler, même si la question de savoir si un État centralisé et jacobin comme la France est réellement une nécessité, ou si on ne pourrait pas imaginer d'autres façons de gouverner la France sans que la France ne soit qu'un amas d'éco-hameaux, vous voyez.
Oui. Ou finalement, c'est les individus qui prennent ces initiatives et qui reprennent en main ça et qui n'ont pas d'autre solution, d'autre choix, d'autre alternative que de se mettre en marge et en rupture par rapport à ça. Est-ce que pour conclure cette émission, vous pourriez vous donner un conseil, par exemple, à ceux qui ont envie d'aller vers ce genre de projet, qui n'osent pas, qui ont peur, mais qui aimeraient quand même faire cette démarche-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme conseil ?
Eh bien, le premier conseil, c'est ne réfléchissez pas trop. C'est la première chose, parce que nous avons rencontré beaucoup de gens qui voulaient fonder ce genre de projet, mais qui en restaient à l'étape de la velléité et qui écrivaient des documents de 150 pages pour essayer de border tous les aspects futurs et tous les problèmes futurs qu'ils allaient rencontrer. Ça n'est pas possible. On ne fait jamais rien dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être nombreux, en fait, hein. Il faut être deux ou trois, ça suffit. Et puis ensuite, il y a du monde qui va s'agglomérer. Il faut un ou deux projets phares. Et puis maintenant, il existe beaucoup de structures qui mettent en lien des lieux vides avec des porteurs de projets, notamment des lieux d'église vides avec des porteurs de projets. Donc il y a finalement presque plus d'opportunités qu'à mon époque. Qu'à l'époque où nous avons fondé. Il faut accepter de renoncer au lieu idéal. Il faut accepter de quitter un certain confort. Il faut accepter de se remettre en question. Il faut accepter, en fait, de vivre de façon analogue ce qu'on vit quand on se marie. C'est-à-dire que c'est un engagement...
Qui nécessite des compromis,
la qualité principale qu'il faut acquérir, c'est la capacité d'adaptation. C'est pour un bonheur plus grand. Donc, on ne peut pas... normalement, on ne regrette pas de s'être marié. Et de la même façon, on ne regrette pas d'avoir engagé une démarche de conversion et de convivialité... avec d'autres camarades.
Un mot peut-être pour conclure ?
Non, je crois qu'effectivement c'était intéressant de recevoir François Nollet. Ce projet d'éco-hameau de la Méditation du Monde, à titre personnel, je l'observe de loin depuis plusieurs mois déjà, et je suis ravi qu'on ait pu échanger en chair et en os. Effectivement, vous le dites avec beaucoup d'honnêteté, je partage votre avis, je ne suis pas certain que tout le monde soit capable et soit appelé à choisir des modes de vie aussi, aussi alternatifs dans un premier temps. C'est quand même un pas de côté, certes, mais c'est un grand pas de côté. C'est déjà assez souple pour faire ce genre de grands pas. Pour ceux qui sont peut-être plus rigides, il y a effectivement tout un éventail de choses qui sont possibles, mais il nous plaît, en tout cas à ce micro, d'aller toujours chercher des propositions, chercher des exemples, tout simplement, de choses qui se font à droite et à gauche. Et donc, en l'occurrence, on est ravis de vous avoir reçu.
Merci pour votre invitation et bravo pour votre radio.
Merci beaucoup. Merci François Nollet. Merci François. À bientôt sur les ondes de Méridien Zéro. Et comme on dit,
à l'abordage
et pas de quartier.